plus à l'oreille.
Promouvoir la biodiversité de proximité.
Sébastien, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Charlotte. Ah, tiens, et... je l'ai fait dans le sens inverse aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi.
Il faut changer les habitudes, oui, Sébastien, c'est bien. On salue aussi Florent et Séverine de La Compote, parce que c'est grâce à eux quand même qu'on écrit cette petite chronique.
Et oui, et on remercie également Charlotte,
mais oui,
ici présente,
et
parce
Thomas.
Que voilà, vous avez aussi vu un truc étrange.
On a fait une observation, Sébastien.
Double victime, le héron, la double victime. Donc avec Flo et Séverine, bah, il s'est juste fait manger par un aigle royal, bon... Voilà, ça c'est fait, c'est plié.
Vous pourrez voir les images d'ailleurs dans le podcast de la semaine dernière, parce que la semaine dernière on a parlé
de l'aigle royal.
Voilà, exactement.
Et puis toi avec Thomas, raconte en fait, qu'est-ce qui s'est passé.
Je raconte. Figure-toi qu'on était en train de pédaler de manière extrême et intensive sur la plaine de La Compote.
Tu romances un peu là.
Dans cette zone-là, il y a plein de hérons. Et donc Thomas il me dit, ah regarde, il y a le héron qui avait un rongeur dans le bec. Et on tourne la tête, on entend un cri, on retourne la tête, une buse ou quelque chose qui s'y ressemble avait le rongeur dans la bouche, le rongeur du héron.
D'accord,
il
donc voilà. Bon là, le héron a survécu, mais il s'est fait piquer son repas.
C'est un peu un bisu quand même dans les deux histoires.
C'est le pauvre.
Mais on va corriger tout ça.
Tout à fait, on va en parler et on va le dire comme il est gentil, comme il est beau et comme il mange beaucoup de choses.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un échassier, le héron ?
Eh bien écoute, on peut le dire, mais ça veut dire qu'on fait partie du siècle dernier. On parle aujourd'hui des ardéidés. Allez, pourquoi on parle plus d'échassier ? Parce qu'on a déjà vu, hein, c'est un peu comme pour les chouettes et les hiboux, les classifications d'antan, c'était surtout par rapport à la morphologie. Et maintenant qu'on a la capacité de faire des tests ADN et de voir leur génome, on s'aperçoit que les chouettes n'ont pas tellement de liens de famille. Et c'est pour ça que maintenant on essaye d'enlever les mots chouettes. Hein. La chouette effraie est devenue l'effraie des clochers, la chouette chevêche est devenue la chevêche d'Athéna, pour montrer qu'en fait, ils ne font pas partie de la même famille. Et exactement la même chose pour les échassiers. C'est des oiseaux qui se ressemblent, hein, des grands oiseaux avec des pattes assez longues, un grand bec pour aller pêcher des bestioles dans l'eau. Mais au niveau génétique, ben, les familles sont quand même assez éloignées. Donc c'est la famille des ardéidés. Alors oui, on peut dire échassiers entre nous, mais quand on veut être pro, c'est ardéidés. Ces oiseaux, ils ont une taille moyenne à grande. Ils ont donc un long cou qui est replié en S au repos et en vol, et qui se tend quand il est en alerte, hein, et, ou quand il capture une proie, parce que c'est un espèce de... Voilà, il projette son cou pour récupérer ses proies. Ils ont tous des longues pattes qui sont tendues vers l'arrière en vol. Un long bec en forme de poignard qui est caractéristique des piscivores, c'est-à-dire qui mangent des poissons, mais pas que, on va le voir. Et puis, nombreux sont ceux... T'as une note pas facile, hein. C'est comme les chaussettes de l'archiduchesse. Ils sont nombreux à vivre en colonie pour la reproduction, mais ce n'est pas la règle forcément.
On parle aujourd'hui du héron cendré, même si on sait qu'il y a aussi un petit héron pourpré. Non, pourpre.
Non, le héron pourpré.
Ah,
ouais, exactement.
Il est tout rouge celui-là.
Il est, alors rouge, c'est un grand mot, mais il est plus dans les couleurs pourpres, en effet.
Donc, mais, là, mais on en a des hérons.
On n'en a pas, nous, dans les Bauges.
Bon, bah, on va se concentrer sur le héron cendré, qui lui est plutôt gris. Hein.
Voilà. Donc, dans la famille dont on vient de parler, anciennement les échassiers, le héron cendré, c'est le plus grand d'Europe. Il fait 1 mètre de haut, il fait 2 mètres d'envergure,
comme l'aigle royal,
et il fait 1,2 kg. Oh,
pas
le petit
tout.
Joueur.
Ah oui, parce que l'aigle royal, on en a parlé la semaine dernière, 5 kilos.
5 kilos. Donc c'est énorme, parce que l'envergure est quasi la même, mais là, le poids, rien à voir. Longévité, 25 ans. Les pépères, ils vivent assez longtemps, hein, s'ils ne prennent pas un plomb dans le cul. Et puis, ils ont donc une teinte grise dessus, d'où son nom, héron cendré, un peu plus clair dessous, et puis des zones noirâtres qui contrastent avec le reste du plumage qui est plus clair.
Comment est-ce qu'on peut distinguer le juvénile de l'adulte ?
Eh bien, par plusieurs critères, c'est que le passage du jeune à l'adulte, il y a le développement de la huppe. Alors, ce n'est pas une huppe dressée au-dessus de la tête comme pour la maison Juppé, c'est plutôt des longues plumes qui vont se mettre le long du cou, derrière la tête, que l'oiseau peut dresser, mais c'est quand il est vraiment énervé. Et son plumage aussi va contraster davantage. les parties supérieures du bec vont s'assombrir, les pattes vont s'assombrir. Et puis, il va avoir aussi le développement de longues plumes sur la gorge, des plumes assez longues et puis noires qui tranchent bien avec le reste. Un peu comme quand tu vois un coq, il a au niveau de la tête, pareil, à peu près au même endroit, il a des longues plumes très fines qui sont très jolies. Et le héron fait pareil sur le devant de la gorge.
Et ça, quand il a ces plumes-là, c'est un adulte.
C'est qu'un adulte. Quand il est très contrasté, c'est que c'est un adulte. Et quand il a une belle huppe, c'est que c'est un adulte. Et quand il n'y a pas, c'est que c'est un jeune.
On en voit, donc on l'a dit, sur la plaine de la Compote, là, qui va vers Être, mais pas que. Hein. On n'en trouve pas que là.
Non. On en voit souvent aussi entre la Motte et le Châtelard, là. Pareil, là, au niveau où ça va descendre au plan d'eau. Les plans d'eau ne sont pas très loin, donc ça leur fait les deux zones de chasse, c'est pas mal. Donc c'est un oiseau qui vit à proximité d'eau douce ou saumâtre. Donc saumâtre, c'est le salé, quoi. À condition d'être poissonneuse, il faut qu'il y ait du poisson. À l'intersaison, il fréquente beaucoup les milieux agricoles parce qu'il chasse des rongeurs et des autres grandes sauterelles vertes et gros insectes. Pour la reproduction, il cherche des milieux arborés, donc c'est soit carrément la forêt, soit la ripisylve, c'est la forêt qui borde les cours d'eau, soit une peuplerée, donc une grande zone où il n'y a que des peupliers. Dans les grands parcs aussi, où vous avez un énorme cèdre, par exemple, ça fait une grosse plateforme, il va pouvoir s'installer là pour faire son nid. Mais ça peut être aussi dans des petits bosquets pas très hauts, parfois même au sol dans les roselières, à condition que ce soit en milieu humide, c'est-à-dire difficile d'accès pour les prédateurs.
C'est un oiseau qu'on va trouver un peu partout en Europe ?
Dans tout le vieux continent, en se limitant aux climats qui ne sont pas extrêmes, donc il ne va pas aller au grand froid, ni dans les zones désertiques. De toute façon, qui dit grand froid dit eau gelée, donc pas accès aux poissons. Qui dit désert dit pas d'eau, donc pas de poissons.
Et c'est souvent une espèce qu'on observe par groupe, non ?
Oui, c'est une espèce grégaire à toutes les époques. Il y a des oiseaux qui vont être grégaires l'hiver, par exemple les mésanges, elles se regroupent, mais à la belle saison, elles ont chacune leur territoire, elles font leur vie. Le héron, lui, ça va être à toutes les époques. Donc au niveau de la saison de reproduction, il va avoir des colonies qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de nids. Donc ça fait des bonnes petites colonies. Hein. Et le territoire, il s'arrête aux abords du nid. Un peu comme on a vu pour l'hirondelle de fenêtre, qui est une espèce sociale qui vit en groupe. Le territoire s'arrête au nid. Et puis à l'intersaison, il va rester en dortoir pour la nuit. Donc ils vont chacun les chasser la journée dans leur petit territoire et faire ce qu'ils ont à faire. Et puis la nuit, ils se regroupent tous pour se mettre dans des zones abritées des prédateurs. C'est souvent des grands arbres, des îlots au milieu de la flotte, donc comme ça pas de prédateurs, ou des vasières dans lesquelles les prédateurs ne peuvent pas bien se déplacer.
Donc ils aiment bien être ensemble, mais pas pour chasser par contre.
Eh bien non, là pour la chasse par contre, ils sont très territoriaux et solitaires. Il y a des courses-poursuites fréquentes. Quand tu vas dans des plans d'eau où il y a des aménagements de cabanes d'observation, tu peux observer les hérons et tous les oiseaux. Et des fois, tu vois les hérons, des courses-poursuites de hérons. Ils sont là pour se dire non, là, c'est moi, c'est ma zone de pêche. Donc, tu me laisses tranquille. Donc, en chasse, ils sont très, très territoriales.
Est-ce qu'ils vont migrer ces
oiseaux ? Eh bien, c'est un peu comme on l'a vu pour le rouge-gorge, c'est des migrateurs partiels. Donc, par exemple, les hérons de Sibérie vont tous migrer parce qu'ils ne trouveront rien à manger de toute façon. Donc, parce que ça, les plans d'eau vont geler, la nourriture va être couverte, donc ils vont forcément migrer. Alors que chez nous, par exemple, ceux qui sont au bord des lacs en plaine, lacs d'Annecy ou d'Aix-les-Bains, ils sont là, ils y restent. Nous, les nôtres, ils vont quand même, il y a un peu de neige, un peu plus de froid, ils vont avoir tendance à descendre au bord du lac et ils reviendront un petit peu plus tard. Les migrations, il ne faut pas s'attendre à des migrations type grues, oies, cormorants qui forment le V. Eux, ils migrent en patate. Pas très organisé. Mais c'est sympa, c'est joyeux.
Pour faire le parallèle avec la semaine dernière et l'aigle royal, ils vont rester ensemble pour toute la vie.
Et non, pas pour toute la vie, mais pour toute la saison. C'est un gros oiseau. Très souvent, les petits oiseaux sont monogames pour la saison, c'est-à-dire le couple s'établit juste pour la belle saison, et puis après, l'année d'après, on peut changer. Et alors que les gros oiseaux, en particulier les rapaces, ont plutôt tendance à avoir une vie commune plus longue sur plusieurs années, voire sur la vie. Mais là, le héron fait exception.
Il est pas très difficile en côté alimentation, ce héron. Il mange un peu de tout, j'ai l'impression.
Il mange un peu de tout, c'est vrai, et des choses particulièrement grosses. On mettra des images sur le podcast, là, des photos où on se dit, mais ça va pas passer, c'est pas possible. Eh bien si, ça passe, figurez-vous que ça passe.
C'est le grand coup, ça.
C'est ça. Élastique. Il mange des poissons, et en particulier pour l'alimentation des jeunes, mais il mange aussi des amphibiens, il mange aussi des reptiles, donc des couleuvres. Il va manger des écrevisses, il peut manger des jeunes canetons. Voilà, donc tout ce qui est autour du plan d'eau. Et puis à l'intersaison, on a dit, hein, il allait plutôt dans les milieux agricoles où là, il va manger un sacré paquet de rongeurs. Merci le héron. Des vers, des gros insectes, et voilà.
Donc on est content qu'il occupe nos champs, finalement.
Mais oui, parce que quand vous observez des hérons dans les champs, ce n'est pas pour manger la truite des champs, mais plutôt les campagnols, les mulots et tout ce qui s'ensuit.
Côté reproduction, donc tu as parlé un peu tout à l'heure, hein, des nids. Donc on va le trouver soit dans les arbres, soit dans la roselière.
C'est ça. Donc arboricole, sur la canopée, donc au sommet d'un arbre, plutôt un arbre d'abord un peu costaud et puis avec une zone relativement plate. Il va installer des brindilles et des branchettes qui va garnir d'éléments plus fins.
Ça va être gros comme celui de l'aigle ?
Eh ben non, c'est pas si gros que ça. La taille, elle est relativement petite par rapport à la taille de l'oiseau. Parfois, il va faire des colonies mixtes avec le corbeau-freux. Donc le corbeau-freux, disons une grosse corneille, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas le corbeau-freux. Et on va avoir du mal à distinguer le nid de l'un par rapport à l'autre, alors que le héron est bien plus gros que le corbeau-freux. Donc malgré cette structure un peu faible, hein, il va l'utiliser plusieurs années de suite. Et donc le nid va quand même gagner un peu en volume parce qu'il va être rechargé d'année en année. Et on a observé des arbres, alors des arbres un peu costauds quand même, où dessus tu trouves une dizaine de nids de hérons.
Et ça, on pourrait l'observer en bauche par exemple ?
Eh ben, sous forme de colonie, non. Sous forme de nid isolé, oui. Parce que donc, là, c'est ce qu'on décrit, c'est les cas, les généralités. Mais nous, dans les Bauges, ils vont nicher plutôt seuls.
Oui, on voit rarement des grosses colonies envahir les champs.
Voilà, c'est chaque couple a sa petite zone.
Et donc, si le nid est dans les branches des arbres, comment ils font dans les roselières ?
Eh ben dans les roselières, ils vont se mettre au sol, ils vont essayer de trouver quelque chose, un support qui rehausse un petit peu au cas où il y a une montée des eaux. Donc une vieille souche de phragmite, un tronc d'arbre qui est couché en travers avec une accumulation de choses autour. Et ils rajoutent des brindilles, des branchettes, des bouts de roseaux, des éléments qu'ils trouvent au bord de l'étang.
Donc le nid, il est indispensable, hein, pour pondre les œufs. Ils vont pondre un peu plus d'œufs que l'aigle royal, puisque là, ils auront 3 à 5 œufs.
Oui, c'est ça. 3 à 5 œufs, 3 semaines d'incubation où les deux vont couver, mâle et femelle. À la naissance, les poussins sont assez comiques parce qu'ils ont une espèce de duvet blanc dressé sur la tête. On a l'impression qu'ils ont mis les pattes dans la prise. Pour la nourriture, les jeunes, au départ, se servent dans le bec des adultes directement, et puis en grandissant ils vont donner des coups de bec dans le jabot, enfin de la gorge des parents, ce qui entraîne une régurgitation
sympa
dans le nid de poissons, donc à moitié digéré. Imagine la colonie où il y a une centaine de nids, ça sent bon la poissonnerie. Et les juvéniles vont rester, donc les jeunes vont rester au nid environ 2 mois parce qu'ils volent pas très bien avant l'âge de 55 jours.
Mais ça met un peu de temps quand même, du côté
du héron. Oui, c'est pareil, c'est un peu tanguy aussi là.
Très bien, merci beaucoup Sébastien, c'était passionnant. On a hâte de se retrouver la semaine prochaine.
Vous venez d'écouter La Puce à l'oreille,
la chronique biodiversité de Radio Alto.
Retrouvez-la en podcast sur le site radioalto.info
et sur le site colocataire.com, terre, T-E-2-R-E.